Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés.
Ce soir, nous allons remonter très loin dans le temps. Nous partons explorer les mythes celtes, pas seulement pour éclairer les racines profondes de notre identité, la fameuse phrase « nos ancêtres les Gaulois », mais ici ce sera « nos ancêtres les Celtes », mais aussi et surtout pour comprendre comment les mythes nous éclairent en fait sur le monde passé et peut-être le monde que nous vivons. Comment le mythe peut nous éclairer sur les forces à l'œuvre dans le monde et en nous-mêmes. Notre accompagnateur pour ce voyage est un historien des religions, spécialiste du monde celte. Bonsoir Patrice Lajoie.
Bonsoir.
Vous avez cofondé la revue Mythologie Comparée et vous êtes secrétaire de rédaction des revues Gallia et Histoire des sociétés rurales. Et vous avez publié aux presses du CNRS un ouvrage très savant intitulé « L'arbre du monde, la cosmologie celte ». Nous allons, si vous le voulez bien, Patrice Lajoie, nous livrer à un petit travail de définition, pour commencer. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un mythe, finalement, et en quoi il nous informe sur le rapport au monde du peuple qui a créé et entretenu ce mythe ?
Il y a plusieurs définitions qui coexistent et aucune n'est parfaite. Dans le domaine de la mythologie, on a trois matériaux de base, le conte, la légende, le mythe. Le conte est un récit qui est intemporel, non localisé, et merveilleux. La plupart du temps, il y a des contes satiriques, mais du coup, on a des récits qui commencent par « Il était une fois dans un certain royaume ». La légende, elle est localisée en un certain temps, en un certain lieu, toujours. Elle est souvent merveilleuse, mais elle a assez rarement d'implication dans la religion. Le mythe est exactement la même chose qu'une légende, sauf que là, le mythe est au cœur d'une religion. Le récit mythologique explique les choses en général. Donc il peut expliquer le monde, il peut expliquer aussi le fonctionnement du monde, et donc il va être à la base d'une théologie. Il va être à la base d'idées visant à expliquer ce que nous sommes.
Oui, donc il n'y a pas de religion ou de théologie qui soit coupée de la mythologie. Il y a toujours une mythologie qui accompagne les religions, qu'elles soient d'ailleurs monothéistes ou pas monothéistes. Et c'est vrai que parfois ça peut nous étonner de parler de mythes dans la religion monothéiste, mais au fond c'est vrai, la Genèse c'est un mythe fondateur, on peut dire, de la religion monothéiste.
Oui, le mythe en soi n'est pas à prendre dans le sens histoire inventée. Le mythe, c'est le récit fondateur de la religion. Donc la Bible, c'est la mythologie du christianisme, par exemple.
Oui, et d'ailleurs, les peuples qui adhèrent, en fait, à telle ou telle religion, adhèrent aussi à la mythologie qui va avec. Donc c'est quand même aussi, il y a aussi une affaire de croyance. Ce qui fait une distinction peut-être fondamentale entre précisément le conte et le mythe. Le conte, on sait que, d'ailleurs très souvent dans d'autres langues que le français, on dit cela était et cela n'était pas. Donc on sait que le conte joue aussi sur des choses dont on sait qu'elles ne sont pas vraies. Alors que le mythe nous dit, si, si, je vous raconte quelque chose qui est fondamentalement vrai et qui est le socle d'une croyance.
Alors c'est une question qu'on s'est souvent posée. Est-ce que les anciens croyaient en leur mythe ? Parce que certains sont absolument fabuleux. Une bonne partie des Indo-Européens racontaient que le monde a été formé à partir du corps d'un géant démembré, sacrifié par les autres dieux et dont les parties du corps ont fondé les différentes parties du monde, ou les différents êtres sur le monde, voire même les différentes parties de la société, c'est quelque chose de fabuleux. C'est difficile à croire. Y ont-ils cru ? Est-ce que c'est important d'y croire ? L'important, c'est le message qui est contenu dedans. Parce que, justement, avec ce type de récit, pour reprendre l'idée de l'homme cosmique, tel qu'il a été, par exemple, raconté en Inde, on explique finalement, de quelle manière le monde est structuré. Puisque le récit nous explique aussi que de la bouche, par exemple, de cet homme cosmique sont sortis les prêtres, les brahmanes, des bras, les guerriers, des jambes, tous les producteurs. Et donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le mythe, en même temps, montre les choses telles qu'elles doivent être, telles qu'elles sont supposées être. Alors, il y a une part d'allégorie, et c'est cette part-là qui est importante.
Et alors, comment on peut retrouver les mythes dans les traditions pour lesquelles on n'a pas d'écriture, en fait, dans les traditions dénuées d'écriture, ou dont les écritures, maintenant, sont perdues parce qu'elles sont beaucoup trop anciennes, Patrice Lajoie?
Ah, c'est un exercice extrêmement délicat. Il y a certaines civilisations, certaines cultures pour lesquelles on n'y arrivera sans doute jamais, y compris même en Europe, des peuples antiques qui ont disparu et dont on n'arrivera pas à savoir ce qu'ils pensaient, quels étaient leurs récits. Je pense aux Thraces, par exemple, dans les Balkans, ou aux Daces.
Pour lesquels il nous reste des objets
qu'on a trouvés dans des fouilles archéologiques,
mais qui disent rien, en fait.
On a quelques vestiges, quelques scènes, on a des fragments racontés par les Grecs, leurs voisins. Mais curieusement, que ce soit les Grecs ou les Romains, ils ont été assez peu bavards concernant leurs voisins du Nord. Dans l'Antiquité, Grecs et Romains racontent des tas de choses sur leurs voisins du Sud ou de l'Est, donc sur les Perses, sur les Égyptiens. Mais sur leurs voisins du Nord, les Gaulois, les Daces, les Germains, ils sont très très peu bavards. On a des tas de sources concernant l'histoire elle-même, les guerres qu'ils ont entretenues entre eux. On a des sources événementielles, mais alors dès qu'on touche à la société, et donc à la religion, c'est le néant. Ou alors on a les mêmes textes qui sont répétés d'un auteur à l'autre. Par exemple, un passage sur les druides, qui nous est raconté de façon quasiment similaire sur 3 siècles, sans que quelqu'un ait l'idée d'aller voir en fait ce qui se passe. C'est très très curieux ce silence, peut-être parce que c'était finalement trop familier pour eux, donc ils n'ont pas pensé du tout à en parler. C'est pas assez exotique, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Et du coup, comment reconstituer, comment essayer de savoir ce que ici on parle des Gaulois, des Celtes, ce qu'ils ont bien pu penser, quelle a été leur religion. C'est un exercice de ce qu'on appelle la mythologie comparée. Un exercice périlleux que les spécialistes d'une discipline précise en général récusent. Parce que soit ça nous oblige à prendre en compte des textes ou des sources qui viennent d'une autre période. Déjà, c'est délicat, parce que d'un temps à l'autre, il y a forcément une évolution.
C'est un point de vue, en plus, externe, évidemment.
Pas forcément, non. On peut avoir des sources internes, mais plus tardives.
Plus tardives, oui. Externes dans le temps, alors.
Voilà. Et en même temps aussi, on peut faire appel donc, à des sources externes. Donc des sources ici romaines, grecques, mais pas seulement. Alors c'est difficile. Il y a forcément une part d'hypothèses, de reconstitution parfois hardie. Alors je le reconnais, ce que j'ai écrit, c'est de l'hypothèse. C'est forcément critiquable. Mais en même temps, quand on essaye d'assembler petit à petit, patiemment, toutes ces pièces de puzzle, on peut arriver à reconstituer un morceau de l'image.
Oui, ce que vous faites. Et alors vous avez beaucoup recours à des éléments d'archéologie, bien sûr, de sculptures, de tel ou tel objet qui permet de voir un symbole ou en tout cas une image se déployer. Mais vous utilisez aussi beaucoup, beaucoup la philologie, c'est-à-dire qu'au fond, vous travaillez sur l'étymologie des mots, des noms surtout, des noms de Dieu par exemple, et comme s'il y avait dans la langue une possibilité de recherche archéologique. Et je dirais que ça m'a vraiment passionnée dans votre travail. Alors, on va pas pouvoir le refaire ici parce que c'est évidemment extrêmement érudit, donc je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage s'ils souhaitent vraiment entrer dans le cœur de cette technique. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a ça, c'est-à-dire dans la langue, même jusqu'à nos jours, il y a les traces du passé, et donc que c'est un immense champ de fouilles archéologiques, que nos langues et les langues anciennes, bien sûr, encore plus. Patrice Lajoie.
C'est le travail des linguistes depuis plus de 2 siècles, depuis la découverte des Indo-Européens, si on peut dire. C'est un sujet qui est en débat, mais sur lequel il est difficile de revenir maintenant. Oui, effectivement, les mots ont un sens. Il peut être caché maintenant parce que toute langue évolue d'un point de vue phonétique et donc parfois on ne peut plus reconnaître le sens du mot à l'origine. Mais quand on remonte dans le temps, quand on arrive à retrouver des formes anciennes, au bout d'un moment, on arrive à quelque chose qui fait sens. Donc il n'est pas évident, par exemple, que quand je dis le mot Zeus, pour le dieu grec du ciel et de l'orage, quand on l'entend comme ça, on ne sait pas que c'est le ciel. Mais quand on remonte à son étymologie, c'est évident, c'est le ciel diurne, Deiwos.
Deiwos en
indo-européen.
En indo-européen, d'accord.
L'étymon indo-européen, Deiwos. Et là, ça fait sens. Et on retrouve du coup des quantités de corrélats dans les autres langues, y compris en français, le mot Dieu, c'est le même. C'est exactement le même.
Et c'est aussi un mot qui est utilisé en celte, enfin, je sais, on dit oui. En langue celtique.
Oui. On a des formes en celtique ancien et aussi en irlandais. Donc, par exemple, les Irlandais païens connaissaient un grand dieu qui s'appelait le Dagda. Enfin, normalement, ça se prononce Daaga, et qui est le bon dieu.
Et on retrouve le da dedans, d'accord, Deus voilà. Dedans. Alors, peut-être qu'il faut préciser ce qu'on entend par celte, déjà, avant d'entrer dans cette mythologie et dans cette cosmogonie aussi. Peut-être qu'on verra la différence aussi entre les deux. Mais est-ce que, vous pouvez nous expliquer, à la fois sur le plan temporel et sur le plan géographique, sur le plan linguistique aussi peut-être, ce qu'on appelle les Celtes et finalement ce qui nous en reste, parce qu'apparemment il reste quand même très très peu de choses. Votre travail est particulièrement ardu, Patrice Lajoie.
La notion de Celte est toujours en débat parce que on ne sait pas, on n'arrive pas forcément à trancher pour savoir si, pour définir une culture, on s'appuie d'abord sur la culture matérielle ou si on s'appuie sur la culture spirituelle. Si on s'appuie sur la culture matérielle, il n'y a pas de monde celtique.
Ah, c'est un scoop, ça.
Non, pas du tout. C'est ce que disent beaucoup d'archéologues, d'ailleurs. Parce que dans le temps et dans l'espace, ceux qu'on a appelés celtes ont eu des cultures matérielles parfois extrêmement différentes. Notamment, je pense aux celtes d'Italie du Nord, qui avaient une culture italique, similaire à celle des Étrusques ou des Vénètes, leurs voisins.
Alors pourquoi on les appelle celtes ?
Parce qu'ils parlent une langue celtique.
D'accord.
En fait, le point commun entre tous ces peuples, c'est leur langue. Et ensuite, c'est leur religion, ou leur mode de société. Mais le mode de société, on le connaît beaucoup moins bien. Mais en tout cas, la base commune, c'est un groupe de langues. Donc un rameau des langues indo-européennes, qu'on appelle celtiques, qui se définissent par un certain nombre de caractères grammaticaux, orthographiques, phonétiques, et donc qui permet de définir une famille celtique, elle-même décomposée en plusieurs rameaux. Et c'est ça qui fait le point commun entre les différentes cultures dites celtiques, et pas autre chose. Parce que si on s'adressait à la culture matérielle, par exemple, on devrait dire que les Germains de l'Antiquité sont des Celtes. Parce que les Germains de l'Antiquité ont une culture matérielle qui est du même type que celle des Gaulois. À peu de choses près.
D'accord. Mais par contre, ils ont une langue radicalement différente.
Ils ont une langue qui est germanique, qui est différente, oui.
D'accord. Et ils ont aussi une mythologie différente ?
Oui, avec des points communs, bien sûr, des larges points communs. Comme tout peuple dit indo-européen, tout ça est issu d'un même fond commun. Donc, il y a énormément de variations, mais il y a des choses qu'on retrouve, évidemment, d'une branche à l'autre. Et c'est ce qui permet, là encore, de permettre le travail de mythologie comparée.
D'accord.
Donc voilà, en fait, entre les Irlandais anciens, les Gaulois, les Celtibères, ceux qu'on a appelés les Pontiques, donc les peuples d'Italie du Nord, et d'autres encore, les différences matérielles peuvent être importantes, extrêmement importantes, mais d'un point de vue linguistique, ils sont proches, et d'un point de vue spirituel, ils sont parfois très proches aussi, avec des dieux en commun, évidemment, des dieux qui portent le même nom. Il y a un grand dieu qui s'appelle Lugus chez les Gaulois, qui est connu chez tous les peuples celtiques.
Et alors ce dieu-là, quelles sont ses fonctions et ses attributions, ce grand dieu ?
Il a pour caractéristique d'avoir toutes les fonctions.
Là,
c'est une innovation des Celtes, justement, ce dieu Lugus, c'est le polytechnicien. C'est comme ça que les Irlandais l'appelaient, Samhildanar. Et donc, il a toutes les fonctions de tous les dieux. C'est quelque chose d'unique dans le monde indo-européen. Alors, on peut se poser la question, pour certains polythéismes indo-européens, s'il n'y a pas eu une tendance au monothéisme. Et c'est ce que Max Müller avait appelé l'énothéisme. C'est-à-dire avec la présence d'un grand dieu, dont, pour lequel les autres dieux sont des émanations, des émanations fonctionnelles. Et ça a été le cas, par exemple, en Grèce, avec les philosophes stoïciens, pour qui tous les dieux sont des fonctions de Zeus. Arès, par exemple, c'est Zeus guerrier.
Oui.
Ce mode de pensée, il a existé ailleurs. Il a existé en Iran ancien, avec le mazdéisme. Et pourquoi pas chez les Celtes? Ça n'est pas impossible du tout. Le dieu dont je viens de vous parler, Lugus, il est le fils lui-même d'un autre grand dieu. En Irlande, c'est le Dagda, donc le bon dieu. Et ce dieu-là, il est lui-même polymorphe. Il a plein d'aspects, plein de fonctions. Et donc, il est associé à une déesse qui est elle-même multiple. Alors, elle porte des tas de noms. Elle est identifiée à la Terre sous le nom de Eriu, et l'Irlande, Banba. Mais c'est aussi Brigitte, qui est devenue Sainte Brigitte dans le christianisme. Elle a été littéralement christianisée. Sainte Brigitte n'a probablement jamais existé. C'est un personnage assez extraordinaire. Et donc, des dieux qui se retrouvent avec des quantités de facettes et qui finalement sont uniques. Donc, c'est une question qui est toujours débattue, là encore, parce qu'on n'aura jamais la preuve ultime, malheureusement, vu les sources dont nous disposons.
Ou dont nous ne disposons pas, en fait.
Ou dont nous ne disposons plus.
Oui.
Je parle beaucoup des sources irlandaises, mais elles sont très ambiguës, ces sources irlandaises, parce qu'elles sont dues à des auteurs qui sont tous chrétiens. Et qui ont conservé l'ancienne mythologie comme trésor poétique, en quelque sorte.
D'accord.
Donc ils racontent cette ancienne mythologie, mais ils la font cadrer avec la Bible. Donc,
oui.
Toute l'ancienne chronologie mythique des Celtes est rendue dans le temps biblique, avec un décompte à partir du déluge, avec une correspondance avec les rois de Judée. Alors, et donc les anciens dieux deviennent eux-mêmes des rois. Ne sont plus des dieux. Donc c'est une matière qui est difficilement saisissable.
Alors pour revenir à cette idée d'un dieu un peu qui a tendance, qui tend vers l'un, disons vers l'unité, je voudrais citer un texte que... Je voudrais lire en fait un texte que vous citez, Patrice Lajoie, dans votre ouvrage « L'arbre du monde, la cosmologie celte ». C'est un texte de Diogène Laërce, justement, qui explique que pour les premiers stoïciens, justement, Dieu, l'intelligence, le destin, Zeus, etc., tout ça font un seul être, mais il va encore plus loin, et c'est ça qui m'intéresse, et je me suis demandé, vous allez me dire si j'ai tort ou raison, si c'était pas aussi, c'est pas quelque chose qui a pénétré, en fait, dans les religions monothéistes via le néoplatonisme. Dieu est un vivant immortel, raisonnable, parfait, intelligent, bienheureux, incapable d'admettre en lui aucun mal, ordonnant par sa providence le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais il n'a pas forme humaine. Il est le démiurge de l'univers et comme le père de toutes choses, à la fois en général et par la partie de lui-même qui pénètre toutes choses, partie qui est appelée de plusieurs noms selon les pouvoirs qu'il exerce. Dia, parce qu'il va à travers. Dia, toute chose. Zena, parce qu'il est cause de la vie, Zen, qui la pénètre. Parce qu'il se répand dans l'éther, Aethera, on l'appelle Athéna. Dans l'air, Aera, Hera. Dans le feu, Artiste, Héphaïstos. Dans l'élément humide, Poséidon, dans la terre, Déméter, on lui donne encore d'autres noms qui dépendent chacun d'une de ses propriétés. Zénon dit que la substance de Dieu est le monde tout entier et le ciel.
Les discussions du soir. Les discussions du soir, Lélie Anvar.
Alors là, on arrive dans des considérations métaphysiques qui sont très proches des préoccupations qui viendront avec le monothéisme, mais pas seulement. C'est vrai que l'idée de non-dualisme dans les religions indiennes, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les religions qui existent encore aujourd'hui et qui renvoie à cette idée d'un dieu qui est l'équivalent de l'être et qui n'a juste que des émanations. Et finalement, le polythéisme ne serait jamais que cette pluri-émanation de l'être. Patrice Lajoie.
Oui, bien sûr, il y a tout un terreau, évidemment, qui est à la base des monothéismes actuels. Et ce terreau a d'ailleurs pu faciliter son implantation hors des régions où il est né. il y a cette question-là de l'énothéisme chez les stoïciens, donc avec la présence d'un grand Dieu unique. Tout de suite, ça aide à concevoir ce type d'idée. Le polythéisme d'Homère ne cadre pas avec ça.
Oui.
C'est ça qui est assez extraordinaire. On parle toujours de la mythologie grecque. Non, il y a plusieurs mythologies grecques, avec les mêmes dieux, mais pas les mêmes concepts. Et il est fort probable qu'il en ait été de même ailleurs. Donc on a des convergences, c'est évident. Le christianisme ne s'est pas bâti sur rien. Il s'est nourri de pensées antérieures. Déjà, de toute façon, que la Bible, l'Ancien Testament, a été forgé dans un monde hellénistique.
Bien sûr.
La Bible de la Septante, c'est une Bible qui a été faite dans un milieu hellénistique après les conquêtes par Alexandre le Grand. Donc, il y a déjà ça. Mais les quatre évangiles eux-mêmes sont écrits dans un milieu grec. Un milieu qui est conscient des philosophies existantes, que ce soit le platonicisme ou autre. Le stoïcisme est là et est très très vivant au moment où les évangiles sont rédigés. Bon, qu'il y ait eu influence ou non dessus, là je ne suis pas du tout compétent pour répondre. Par contre, ce qui est clair, c'est que ces caractères préexistants ont facilité l'implantation du christianisme. Parce qu'il y a des convergences au niveau des concepts.
Oui, alors, et ça permet évidemment de penser en termes beaucoup plus holistiques, je dirais, l'histoire de l'humanité, en tout cas son histoire spirituelle et religieuse. C'est vrai qu'on a, dans le monde chrétien, on a tendance à considérer que c'est une chose absolument unique, et ça n'est arrivé qu'une seule fois, que Dieu se manifeste dans un humain et qu'ensuite il meurt et qu'il ressuscite, etc. Et ça permet de remettre en perspective, mais Patrice Lajoie, j'ai l'impression, même en vous lisant, puisque vous montrez quand même ces liens, y compris dans les filiations linguistiques, j'ai l'impression que quand en général les gens qui sont spécialistes de mythologie comparée rappellent en fait qu'il y a eu, par exemple, ce thème de la résurrection avant le Christ, c'est pas une façon de dire que, je dirais, de mettre hors jeu une spécificité chrétienne, c'est au contraire, c'est de le remettre dans une structure anthropologique co-spirituelle qui est récurrente. Alors, est-ce qu'il y a eu une influence réelle, historique, ou est-ce que ça correspond à juste une structure anthropologique de l'être humain? Ça, c'est peut-être la grande question, mais de laquelle peut-être les mythologues comparés ne veulent pas trop, à laquelle ils ne veulent pas trop toucher, parce qu'évidemment, ça rentre dans un autre domaine qui est celui de la philosophie. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est très important de faire ce genre de recherche, mais il ne faudrait pas que on pense que ces recherches-là, on les fait pour aller contre la spécificité d'une culture ou d'une religion, ou pour dire qu'elle est fausse ou qu'elle qu'elle a été inventée de toutes pièces à partir de pièces déjà existantes.
Non, c'est pas du tout le but. Pour vous redonner un exemple, je viens de faire paraître tout un livre sur un type de héros qui est connu dans l'ensemble de l'Eurasie, en Europe, en Asie. Ce héros, je vais vous le décrire rapidement, il a pour particularité d'avoir un père céleste, une mère a priori humaine, pas toujours, parfois elle a des liens avec les divinités aquatiques, mais bon. Mais en dehors de ce père céleste et de cette mère humaine, la mère humaine elle-même, elle est mariée à un être humain. Le père céleste engendre le héros auprès de la mère humaine. Le père humain accepte ce héros. Le héros grandit. Après des épreuves de qualification, on va dire, dans le sens mythologique du terme, bien sûr, qui montre sa nature de héros, il entame sa carrière héroïque. Sa carrière héroïque consiste à éradiquer le mal sur le monde. Alors, dans les récits mythologiques, ce sont des monstres. Et quand cette carrière est terminée, il devient un dieu. Il monte au ciel. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
Toute ressemblance avec des personnes ayant existé après est troublante.
Bien sûr, on pense au Christ.
Bien sûr.
Sauf que la grosse différence, et c'est ce qui fait le particularisme du christianisme, c'est que le Christ est pacifique. Il ne combat pas des monstres, il combat les péchés des hommes. Voilà. Donc il ne s'agit pas de dire l'un est meilleur que l'autre, que l'un a copié l'autre. Il y a une innovation qui est philosophique et qui est importante. Elle est là. Donc, par contre, moi, ce qui m'intéresse dans ces dossiers-là, c'est leur histoire. Qu'est-ce qui a fait que ces récits sont connus partout? Qu'est-ce qui a fait que tel ou tel peuple a adopté ce genre de récit, a accepté ce type de figure, donc qui était là bien avant le christianisme, même si certains des récits en question ont été collectés très tard, peu importe. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est finalement de l'histoire des textes et par derrière une histoire des populations. Les échanges entre les peuples, montrer qu'il n'y a pas de barrière.
Oui, et que ça circule que bien avant Internet.
Que les idées circulent, que les concepts circulent, s'échangent. Et du coup, arriver à faire de l'histoire dans des zones où on n'a pas d'histoire avec un grand H parce qu'on n'a pas de texte. On n'a que du folklore, des choses comme ça.
Alors, dans quelle mesure, justement, on peut s'appuyer sur le folklore? Parce que c'est vrai que pendant longtemps, même si ça circulait, il n'empêche qu'on était dans des sociétés qui gardaient très 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 longtemps la mémoire des traditions et les mémoires orales, même si forcément avec le temps les choses se déforment. Donc dans quelle mesure on peut avoir accès à ces folklores et dans quelle mesure on peut y faire confiance pour nous dire quelque chose dans un langage relativement récent, mais sur une mythologie ou une manière de voir le monde extrêmement ancienne, puisqu'en fait les époques dont vous nous parlez, c'est vraiment cette langue celte ou ces civilisations celtes telles qu'elles s'est développées, c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ.
Oui,
parmi la joie.
Et c'est surtout aussi plusieurs siècles d'existence.
Oui.
C'est quelque chose qui n'est pas constant, avec des évolutions régionales, temporelles, comme je l'ai déjà dit. Et le problème du folklore, alors le folklore c'est quelque chose qui fait régulièrement rugir les historiens des mondes anciens. C'est inadmissible de s'y adresser parce que c'est beaucoup trop tardif. C'est le problème, c'est que si l'on n'avait pas le folklore des Ossètes, par exemple, un peuple iranien, on aurait très peu de choses de la mythologie des anciens Scythes, qui était le peuple iranien des steppes d'Europe. Parce qu'ils en sont les ultimes descendants. Et ce que les Grecs ont raconté sur eux, c'est infime. Donc heureusement qu'on l'a. Un autre exemple avec un grand héros russe qui s'appelle Ilya Muromets, qui est connu par un folklore colossal, au XIXe siècle essentiellement, un petit peu avant, par des chants épiques qui s'appellent les bilines. Et il y a l'une de ces bilines qui raconte toute une histoire dans laquelle ce héros fracasse contre un mur une grande idole. Alors on pourrait penser c'est du folklore, c'est récent. Le seul problème, c'est qu'on a deux textes, un allemand et un autre scandinave, qui nous parlent d'un certain Elias von Riusen, Élie Ilia de Russie, qui lui-même fracasse des idoles contre un mur. Si, par chance, on n'avait pas eu ces textes étrangers qui ont collecté par pur hasard des éléments de cette légende, on ne saurait pas qu'elle est ancienne.
Oui, et c'est tout l'intérêt et en même temps la difficulté des sources orales, finalement.
Voilà. Alors après, évidemment, il y a des évolutions. Ces personnages vont manier le fusil. Ils vivent dans leur temps. Mais il reste des chevaliers, à une époque où il n'y en a plus. Ils continuent à combattre à la massue, à la lance. À la même époque, Napoléon envahit la Russie avec ses grognards. Pas grand-chose à voir. Donc le folklore est souvent très très conservateur. Alors, il faut être conscient du fait qu'il existe dans un contexte civilisationnel récent. Donc il y a forcément des éléments qui sont récents dedans. Il faut savoir les filtrer ou les garder, bien sûr, parce qu'ils font sens. De toute façon, c'est un tout.
Bien sûr.
Si ce folklore existe, c'est qu'il est vivant. Donc,
c'est qu'il parle
aux gens. Donc on peut penser qu'il y a tout un pan de ce folklore qui a été oublié auparavant. Il en va de même avec les textes. Avec les textes écrits, c'est la même chose. Quand ça ne sert plus, on l'oublie. Donc le folklore, quand on fait de la mythologie comparée, oui, c'est une source importante. Une source qui doit rester secondaire, mais qu'on ne doit pas négliger.
Oui, qui vient en appui en plus de d'autres recherches ou d'autres découvertes. Mais alors comment expliquez-vous, Patrice Lajoie, que justement ce folklore qui a, et d'ailleurs cette oralité globalement, pas que le folklore, qui a été le conservatoire pendant des siècles, voire des millénaires, de toute une culture finalement, de toute une vision du monde, d'une mythologie, d'une cosmogonie, etc. Et comment ça se fait que vraiment l'époque moderne se soit détournée de cela? C'est-à-dire que on ne le garde plus, ou alors quelques folkloristes un peu originaux, mais disons que ça n'intéresse plus les gens, alors que ça faisait partie de leur vie quotidienne et que ça nourrissait à la fois la culture, la spiritualité, la religion, les relations entre les humains, etc. À quel moment pensez-vous qu'on s'en est coupé ? Parce qu'au XIXe siècle, par exemple, on s'intéresse beaucoup à ces choses, mais après, c'est une autre histoire.
Oui, au XIXe siècle, on s'y intéresse beaucoup. Mais parce qu'à ce moment-là, on note ce folklore avant qu'il disparaisse. Beaucoup d'érudits de l'époque ont conscience de cette urgence en disant « il est temps de le faire parce que ceux qui racontent ça sont déjà des vieillards et quand ils seront morts, il n'y aura plus rien ». Alors c'est une disparition qui a été progressive. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça ne s'est pas fait d'une génération sur l'autre. C'est quelque chose qui est lié à l'évolution de la culture de masse, de la culture populaire. Donc l'introduction massive de l'usage de la lecture. Alors c'est pas quelque chose qui est apparu subitement comme ça. Il y a des écoles, je parle du cas français par exemple, des écoles avec un réseau assez dense depuis le Moyen-Âge. Mais la lecture massive, ça apparaît avec les ouvrages de colportage. XVIIe, XVIIIe siècle, la Bibliothèque bleue. Donc des petits livrets qui étaient vendus pas cher et qu'on se lisait dans l'éveillé. Alors certains racontent d'ailleurs des contes merveilleux.
Oui, ou rapportent des éléments du folklore d'ailleurs.
Voilà.
Oui,
oui. Et puis au XIXe siècle, on a l'apparition des feuilletons. Des grands feuilletons de Ponson du Terrail, Alexandre Dumas, qui nous apportent un nouveau merveilleux. Qui est très accessible, qui est facilement lisible. Donc ça remplace des contes que tout le monde connaît. C'est une nouveauté, c'est quelque chose de neuf. Le cinéma arrive ensuite. Tout un tas d'histoires nouvelles, qui forcément séduisent du coup, avec un sens du merveilleux qui est bien présent dès le départ. Au cinéma, il y a Georges Méliès qui nous montre des trucs extraordinaires, ça remplace volontiers un dragon. Voilà, c'est quelque chose qui charme. Et donc, les contes populaires qui sont quand même assez répétitifs, à tel point qu'on peut les classer avec des contes types, ce que font les folkloristes de nos jours, c'est on classe les récits par numéro, parce qu'ils sont normés. Bon, cette nouvelle littérature, ces nouveaux genres populaires, eux ne le sont pas, beaucoup moins en tout cas, et du coup ça plaît beaucoup plus que les contes de la veillée qu'on connaît tous.
Oui, mais là, vous parlez de l'évolution du conte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi il y a une désaffection du mythe. Parce que le conte, finalement, vous avez raison, effectivement, ça évolue, mais dans le cinéma, on reprend, je veux dire, Le Seigneur des Anneaux, après tout, reprend tout un tas d'éléments qui appartiennent au folklore, ou d'ailleurs même à la mythologie ancienne.
Oui, c'est un travail volontaire.
Voilà, absolument. Mais pourquoi ce rapport au mythe qui structure la pensée, qui structure le rapport au monde, qui structure la spiritualité, pourquoi il y a une désaffection de cela ? Est-ce que c'est lié au fait que on croit plus trop au ciel, quoi, d'une certaine façon, on croit plus trop à... c'est ce qu'on disait, on ne croit plus au Dieu, quel qu'il soit, on ne croit plus à la possibilité même de voir le monde dans une vision spirituelle. Est-ce que c'est la révolution industrielle qui amène un tel engouement pour le matérialisme que tout ça paraît des vieilles histoires ou des, voilà. Est-ce que c'est lié à une évolution spirituelle? C'est ça que j'essaye de comprendre. Je lance des idées, je n'en ai pas une idée préconçue, je dirais. Mais c'est juste une intuition. Il me semble que c'est parallèle avec la désaffection, par exemple, du religieux ou du spirituel. Patrice Lajoie.
Là, je vais marcher sur des œufs parce que je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Mais bon, j'ai quelques idées, évidemment, mais je ne sais pas si elles ont une grande valeur. Plus que matérialisme, je pense plutôt à un élargissement du rationalisme et qui a commencé assez tôt. Par exemple, à l'époque moderne, donc 16e, 17e siècle, avec les premiers efforts de critique, bien sûr, les vides saints. On connaît en Occident et même dans le christianisme oriental des quantités de récits hagiographiques concernant les saints de l'Église. Et ils sont farcis de merveilleux.
Très inspirés de la mythologie celte, d'ailleurs.
Pour certains, en tout cas, oui, pas tous.
Pas tous.
C'est farci de merveilleux. On y tue des dragons, on y combat des monstres divers et variés. Il y a des fées, parfois, des nains, des géants. Enfin, bon, j'exagère, hein, c'est pas le cas de toutes. Mais à partir du travail des bollandistes, on a commencé à faire le tri, à dire bah, tout ça, ça n'a plus aucune valeur, on va garder les meilleurs textes historiques, et le reste, bon, bah, on s'en débarrasse.
C'est de la littérature.
C'est de la littérature. Ça ne touche plus l'histoire, mais l'histoire littéraire. Donc on a un premier effort de rationalisme à ce moment-là, avec ça commence à la Renaissance, grosso modo. Et cet effort, effectivement, il s'amplifie avec la révolution industrielle, avec un matérialisme qui est de plus en plus poussé, une sécularisation de la société qui elle-même avance à grands pas, une désaffection des gens envers les différents cultes, quels qu'ils soient. Donc tout ça va de pair. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Je ne sais pas. Mais effectivement, du coup, ça fait que les gens sont beaucoup moins portés à croire en tout ce qui est mythologique, évidemment. Comment croire à un dragon quand personne n'en a jamais vu?
Oui, et puis peut-être ça va aussi plus loin que cela, et c'est ce que j'ai lu en filigrane dans votre livre, même si, encore une fois, vous êtes un historien des religions, donc vous ne sortez pas de votre domaine, mais il m'a semblé quand même lire à travers vos lignes une idée aussi d'un changement radical de rapport à la nature. Et il m'a semblé que ce qui était peut-être le plus intéressant dans une relecture de ces mythes que vous nous proposez, c'est de peut-être retrouver quel était leur rapport à la nature, d'où d'ailleurs le titre, hein, L'arbre du monde, quel était leur rapport à la nature, et peut-être, réviser notre façon, nous-mêmes, d'interagir avec la nature. Et il m'a semblé que l'enjeu écologique, hein, j'ai pas d'autre mot, était présent dans votre livre, et que peut-être il y avait quelque chose à apprendre de ces Celtes, dans le sens où, pour eux, la nature est habitée d'esprit. Donc il y a quand même dans la mythologie celte cette idée que la nature est vivante, et que, à ce titre, l'humain entre en interaction avec ce vivant, et il doit le respecter. Patrice Lajoie. Alors,
c'est pas quelque chose qui est spécifique des Celtes.
Non, bien sûr.
Tous les peuples indo-européens et la plupart des peuples au monde ont une tendance à diviniser les éléments de la nature. Il va y avoir un dieu de la source, un dieu de l'arbre, un dieu du rocher, un dieu de la montagne. Et quand je dis la montagne, c'est cette montagne-là, c'est pas les montagnes.
D'accord.
Et donc tout ce qu'on va appeler les esprits de la nature, en fait des divinités dites mineures. Et tous ces personnages font l'objet d'un culte dans l'Antiquité. Ce culte, il persiste avec le christianisme, même s'il a été abondamment combattu au début du Moyen-Âge. On a des quantités de conciles, donc des réunions d'évêques qui condamnent le culte aux fontaines, aux arbres, aux rochers. Et puis finalement, des fontaines sacrées, on en trouve dans toutes les régions de France, avec régulièrement un arbre sacré aussi.
Bien sûr, ou une chapelle, construite dessus.
C'est quelque chose, oui, qui est important parce que, effectivement, il y a peut-être derrière une idée de respect de la nature. Mais on peut difficilement le dire haut et fort parce que les textes ne nous le disent pas. On respecte la divinité. L'arbre lui-même, moins. On peut le couper, l'arbre.
Oui.
Et puis, par contre, ce qui devient moins évident, c'est comment respecter un système où on a une fontaine sacrée, un arbre sacré, un rocher sacré quand on vit en ville. Où se trouvent ces éléments-là?
Et c'est peut-être là aussi qu'ils font un travail symbolique. Peut-être que l'urbanisation a aussi aidé au développement du mythe. Précisément pour faire un déplacement symbolique par rapport à une vie prise directe avec la nature.
Là, je ne m'avancerai pas. je ne peux pas le dire. C'est délicat, je pense, de parler. D'autant plus que ça touche à ce qu'on appelle la psychologie des populations. Et je ne sais pas si on peut faire la psychologie d'une population. Est-ce qu'une population a une seule et unique psyché? Je ne sais pas.
Oui, ou en tout cas, je voudrais terminer cette émission justement sur un texte qui est extrait de La Veillée de Fingen. Je voudrais terminer cette émission sur ce texte qui me semble assez emblématique, hein, de cette idée qu'il y a quelque chose qui peut-être perdure dans la nature et qu'on peut retrouver dans ces thèmes qui perdurent à travers nos propres mythologies revisitées. Et quelle autre merveille y a-t-il, ô femme ? Dit Fingen. Ce n'est pas difficile, dit la femme. Il y a un arbre qui a été caché depuis le temps du déluge en Irlande et qui produit 3 averses de fruits à travers le brouillard, si bien que la plaine dans laquelle il se trouve est pleine de fruits 3 fois par an. Et quand tombe la dernière graine, il vient sur lui la fleur de la graine suivante. Le déluge l'a atteint sans le détruire et l'œil d'un fils d'homme ne l'a pas vu jusqu'à cette nuit. Mugna est le nom de cet arbre, dit-elle. Et c'est le rejeton d'un arbre de paradis. Il est venu avec le vent, une poussée des éléments, c'est-à-dire une graine de sa fleur qui a germé dans la plaine de Mugna, ou bien c'est une baie de la branche qui était dans la main du Seigneur et qui a grandi après avoir été déposée par Fintan, fils de Bokra, dans le royaume de Conan Bekfrialak. Mais quoi qu'il en soit, il a été mystérieux, car c'est cette nuit qu'il sera montré aux hommes d'Irlande qu'il y aura une gloire éternelle du commencement jusqu'à la fin, à tout jamais. Je voulais donner le dernier mot à une femme, puisque c'est une femme qui raconte l'histoire de cet arbre qui ne meurt pas, cet oiseau, c'était intéressant cet oiseau, cet arbre fantastique dont vous pouvez peut-être nous dire deux mots.
Ce texte est fabuleux parce qu'il mélange intimement des conceptions chrétiennes et des conceptions qui sont, elles, purement païennes.
Bien sûr.
Alors, on se place dans un temps biblique, l'arbre remonte au déluge, et même avant, il a été planté avant.
Oui.
Il vient du paradis, mais c'est un certain Fintan qui le plante. Fintan, c'est l'être primordial de la mythologie irlandaise, et d'ailleurs, là où c'est passionnant, c'est qu'on connaît son étymologie maintenant. Fintan, c'est Windotenos, le feu sacré. Et c'est là qu'on rejoint justement, qu'on peut expliquer ce texte grâce à une autre mythologie, c'est la mythologie grecque des philosophes stoïciens qui disent que Zeus est le feu, que Zeus crée le monde à partir de ce feu. Le monde existe pendant un certain temps avec tous les dieux, les hommes, etc. Puis au bout d'un moment, il se résorbe à nouveau en feu. Autrement dit, entre chaque épisode du monde, seul le feu subsiste. Dans la mythologie irlandaise, entre deux destructions du monde, seul Fintan existe, le feu sacré. Et là, avec ce texte, on a vraiment une description de l'arbre qui est absolument poétique et, et magnifique. Et en même temps, derrière, il y a un lourd passif de traditions qui se mélangent intimement et qui font sens quand même.
Oui,
et c'est une belle fusion.
Oui, et c'est peut-être ça aussi qui fait l'attrait de ces textes et de ces mythologies, c'est que ça nous parle de quelque chose dont nous sommes porteurs, que nous avons peut-être oublié, mais qui vient d'extrêmement loin. Et c'est ça l'intérêt aussi de remonter le temps avec autant d'assiduité et d'attention comme vous le faites. Merci beaucoup, Patrice Lajoie, d'être venu nous parler de ces traditions perdues. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'arbre du monde, la cosmologie celte, paru aux éditions du CNRS, collection Biblis. C'était les discussions du soir par Lilian Var. Attaché de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Bernard Lagnel. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de France Culture.